Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Le 26 octobre à 14h, une réunion publique s'est tenue devant le palais de justice de Rouen. Organisée à l'appel de 11 syndicats, elle est destinée à demander la vérité sur les circonstances de l'incendie d'une partie de l'usine Lubrizol et de 3 bâtiments de Normandie Logistique le 26 septembre. Les participants exigent également des 2 entreprises et des autorités un suivi médical gratuit de la population, une commission d'enquête réellement indépendante, l'organisation par la ville de réunions publiques d'information et une solution de relogement pour tous les habitants, y compris les gens du voyage, dans un lieu d'accueil digne et sans séparer les familles. 500 personnes sont présentes, des habitants de toute l'agglomération, des maraîchers, des médecins, des agriculteurs qui exposent leurs fruits et légumes avec une étiquette mentionnant « légumes lubrifiés ». De nombreuses personnes portent des masques anti-pollution et des combinaisons de protection blanche de décontamination. Cela fait exactement un mois que le gigantesque incendie a provoqué cet énorme panache de fumée noire de 22 km. La cause de la catastrophe n'est pas encore connue, mais on sait désormais que la quantité totale de produits brûlés s'élève à 9505 tonnes, dont 5253 tonnes de produits chimiques sur le site de Lubrizol et 4252 tonnes de produits sur le site de Normandie Logistique. La vente des produits agricoles qui se sont trouvés sous le panache de fumée a été interdite dans de nombreuses communes. La mesure a été levée le 14 octobre pour les produits laitiers et le 18 pour les autres productions. Le préjudice global causé aux agriculteurs est estimé entre 40 et 50 millions d'euros. Quelques jours après cette réunion, le 25 octobre, l'État a annoncé la mise en place d'une enquête de santé auprès de la population, mais aucune enquête biologique n'est envisagée pour le moment, ce qui rend fou les écologistes. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure, avait pourtant déclaré Christophe Castaner quelques heures après l'accident. Ce n'est hélas pas l'avis des habitants que nous sommes allés voir un mois donc après l'incendie devant le palais de justice et chez eux. Place de la République à Rouen, c'est un nouvel épisode signé Valérie Borst.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors ce 26 septembre, en fait, eh bien moi j'habite à 900 mètres hein, de Lubrizol, pour vous situer un petit peu. J'ai été réveillé en sursaut un petit peu avant 3h du matin par une grosse explosion. Et je dormais la fenêtre ouverte. Et là, j'ai senti une odeur très, très acide, vous voyez, une odeur un peu comme presque de lacrymogène, une odeur poivrée. Mon premier réflexe, c'est de sortir de la chambre, de descendre et de vérifier déjà ma maison dans son intégralité. Quand j'arrive face aux fenêtres de chambre, je vois un peu une luminosité absolument anormale à 3h du matin, je veux dire, parce que le ciel est tout orange à cause des flammes, bien sûr. Là, je vois effectivement ces boules de feu. Je me dis, mais c'est hors norme. La taille des flammes, la taille du panache de fumée, le nombre d'explosions, la superficie que ça prend, parce que quand vous êtes à 900 mètres et que vous voyez un hectare en feu, alors surtout avec des flammes de plus de 20 mètres de haut, là vous prenez l'ampleur de la catastrophe et on se dit mais qu'est-ce qui va se passer ? On me dit mais pourvu que les pompiers arrivent à contenir ça, parce que je ne sais même pas comment ils vont faire pour pénétrer au milieu de ces flammes immenses. Et je me suis dit mais s'il y a des gens là-bas alors qu'il est, ça va être juste terrible. Il y a 4 heures qui se passent. Deuxième série d'explosions vers 5h30 qui a été, là ça a été catastrophique quoi, là il y en a eu je sais pas une bonne dizaine facilement quoi, avec des bruits de tôle comme si on secouait de la tôle ondulée très très fort. On se dit mais c'est juste énorme quoi. Et on voit également des hélicoptères, on voit 2 hélicoptères notamment avec des tubes qui pendent. On les voit donc rentrer dans le panache avec des projecteurs, disparaître dans ce panache. J'apprendrai par la suite que c'était les fameux canistères hein, pour les relevés d'air, la toxicité. Donc là, pour le coup, je prends peur. Parce que à ce moment-là, il y a un périmètre de 500 mètres. On est au courant donc par la radio qu'un périmètre de 500 mètres est installé. Ils ne savent pas encore si le périmètre va passer à 1 km ou pas. Donc s'il passe à 1 km, on est dedans. Donc si on est dedans, on se prépare à une éventuelle évacuation. Donc pour le coup, je réveille les enfants, les petits. Je leur demande de s'habiller, mais avec le plus de calme possible pour ne pas leur faire peur. Alors après, il se passe. On entend donc que finalement le périmètre reste à 500 mètres. C'est une bonne chose, on s'est dit bon, on va pas être évacué. Les vents n'ont toujours pas tourné, donc on n'est toujours pas touché par le nuage de fumée. Nous, on prend l'initiative de ne pas envoyer nos fils ni au collège ni à l'école primaire parce que elle est située à 600 mètres seulement du lieu de l'usine. Et donc les enfants s'habillent, tout le monde prend son petit déjeuner, etc. Et eux commencent à regarder les dessins animés, donc c'est très bien, ils ne s'occupent pas finalement de la catastrophe et c'est le but. Une petite heure après, commencent des maux de tête assez violents quand même, des vertiges, des nausées suivies de vomissements. Oui, j'ai vomi trois fois sur la fin de matinée. L'après-midi, il y a eu des éruptions cutanées au niveau du visage, au niveau du cou, donc les parties finalement qui n'étaient pas couvertes par les vêtements. Le médecin fait le lien direct avec Lubrizol par rapport aux symptômes que je ressens et me dit que c'est effectivement totalement compatible avec une exposition soit par voie respiratoire ou autre, donc une inhalation de produits toxiques potentiellement chimiques toxiques. Là, j'ai plus du tout confiance, effectivement, mais c'est pas pour autant non plus que je vais déménager, quoi. Je vais revendre une maison qui aujourd'hui a perdu la moitié de sa valeur. On est propriétaire de la maison, on n'a pas envie non plus de quitter cette maison, c'est chez nous. Par contre, au niveau professionnel, tout a changé, effectivement, parce que depuis le 26, en ce qui me concerne, mon activité est totalement à l'arrêt, ou quasiment totalement à l'arrêt. J'ai perdu 92% de ma clientèle. Donc, je suis jardinier indépendant, en tous les moins j'étais, parce que je n'ai plus de clients. Les clients que j'avais me disent non, ne passez pas, parce que c'est tout noir à la maison, il y a des suies, il y a des choses. On ne sait pas ce qu'il peut y avoir au sol, et ça, je le comprends. Totalement, quoi. Donc là, effectivement, là, il y a un peu une peur qui s'installe et qui perdure aujourd'hui. Qui perdure aujourd'hui parce qu'il y a encore beaucoup d'odeurs qui sont présentes. Les vents tournent régulièrement. Par moments, ça va être des odeurs d'hydrocarbures réellement, comme si on était à la station-service. D'autres moments, c'est des odeurs plus d'œufs pourris. Et c'est plus ces odeurs-là, moi, qui me dérangent, qui m'interrogent. Après, on les masque, ces odeurs, mais ça ne veut pas dire que les gaz qui en résultent ne sont pas là. Donc, il n'y a plus les odeurs, mais il y a toujours les symptômes. Et avec en plus des artifices autour...
Qu'est-ce qui a été décidé, alors ?
Eh bien, de parfumer, entre guillemets, la ville pour faire en sorte que ces odeurs ne se ressentent pas. Il y a eu des vaporisateurs, des neutraliseurs d'odeurs qui ont été passés par les agents municipaux. Donc, il y avait une odeur comme de barbe à papa, un peu, vous voyez, qui flottait dans l'air. Et ça, c'est extraordinaire, quand même. On a vraiment l'impression d'être dans un film, pour le coup, ouais. C'est des machines en fait qui sont mises sur des mâts et vous avez donc vous voyez un brouillard en fait, des brouillards qui sont projetés vers le sol. Je ne sais pas parce que la fête foraine est installée en ce moment aussi sur Rouen et je pense que ça va bien avec. Les gens vont pas se poser plus de questions que ça. Donc à cette époque-ci de l'année, c'est pas plus étonnant que ça finalement de sentir la barbe à papa, voyez-vous, dans les rues de Rouen.
Ça, c'est la vue de mon balcon. En fait, je vois plus le soleil parce que c'est tout gris. Un gris très foncé, vous voyez. Là, il était 8h53 quand j'ai fait la vidéo, mais ça durait depuis 7h30 que moi j'étais levée pendant toute la journée.
C'est que vous partiez.
Ouais. Voilà. Et le nuage en fait qui passait au-dessus de la maison, je pense, commençait déjà à retomber dans les jardins et enfin à passer dans les maisons et dans les fenêtres, entre les portes. Ça remontait par la cave. On a une cave aussi et l'air remontait par la cave. Donc à partir du moment où j'ai vu que j'avais du mal à respirer, que mon fils aussi, dont j'ai un bébé qui à l'époque avait 18 mois, j'ai littéralement pris mon enfant sous le bras. J'ai fait un sac comme quand je l'envoie chez ses grands-parents et j'ai réservé une chambre d'hôtel à Dieppe, qui est à 60 km d'ici, à la mer, là où je me suis dit on aura sans doute de l'air frais. Et voilà, on a roulé 45 minutes et puis on a beaucoup mieux respiré. À la seconde, on est arrivé à la mer. Donc voilà, c'était assez instinctif en fait. Quand je suis arrivée dans cet hôtel, alors au début je me suis dit, mais si ça se trouve je suis la seule à faire ça. Je me suis dit, mais mes parents ils vont me trouver débile. Et je suis tombée sur une maman avec des enfants qui jouaient, et puis je lui demande d'où elle vient. Elle me dit, bah on arrive de Rouen, là c'est la cata. J'ai tourné la tête et dehors j'ai vu passer mes anciens voisins de Rouen. J'ai vu plusieurs personnes que je connaissais, ou même que je connaissais pas, et qui me disaient être partie de Rouen. J'ai passé avec mon fils une nuit à l'hôtel. Nous sommes revenus le lendemain. Ça a été un peu du tout et du n'importe quoi. On nous a dit rester confinés, et puis le lendemain, on nous a dit bah il faut ouvrir les fenêtres très 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 en grand. On a recommandé aux enfants qui vont à la crèche de ne pas sortir et de ne pas aller se promener. Mais nous, on nous disait d'aérer les maisons. Puis on n'est pas du tout ni paranoïaque, ni complotiste, ni quoi que ce soit. À un moment donné, il y a tellement de contradictions dans ce qu'on entend. Une semaine après, on s'est aperçu qu'il y avait de l'amiante. Bon, c'est très facile de confondre ça et de pas vraiment savoir identifier. Donc en fait, moi, maintenant, je sais ce que c'est. Parce que sur ma terrasse marron en bois sont tombés de nulle part des morceaux un peu blancs, plats, qui pourraient ressembler un petit peu à des bouts de mur, un peu en crépi.
Donc on a ces morceaux, on les a fait analyser. Donc on avait trois échantillons, les trois se sont révélés positifs à l'amiante. Ouais. J'ai pas tout saisi, mais il semblerait que ce soit bien au-delà des concentrations habituelles. On considérait que c'était dangereux à partir d'une exposition à genre à 0,01 si on était exposé pendant 10 ans. Et là, ils en ont retrouvé 2. Donc une concentration 100 fois ou 1000 fois supérieure. Disons qu'on est un petit peu inquiet par rapport à l'environnement autour de la maison. Donc quand on rentre avec notre fils le soir, ben, on le porte de la voiture à l'intérieur de la maison. On a instauré ça par précaution. Et puis, un potager de 250 mètres carrés qu'on s'attachait à cultiver la manière la plus biologique possible, avec du purin d'ortie, avec...
Oui.
Avec du fumier de cheval. Voilà, oui. on essayait de faire ça bien pour donner des légumes sains à notre enfant. Moi, j'y suis retourné. Donc, c'est bien. Les légumes ont bien poussé depuis. On a des belles carottes, des panais, des choux, des navets. Tout est là. Et par contre, on n'a pas du tout envie de les manger, en fait.
Je suis allée sur le site de la préfecture. C'est assez marrant. Il y a écrit, les légumes sur lesquels il y a des suies, et voilà, il ne faut pas les manger. S'il n'y en a pas... C'est consommable, il faut les rincer à l'eau claire et voilà. Bon. Il y a quand même 10 000 tonnes de produits toxiques qui ont brûlé. À un moment donné, soyons sérieux, toute la pollution n'est pas une pollution visible. Donc, dans le doute, je trouve hallucinant, mais vraiment hallucinant, qu'on donne des instructions pareilles. Je trouve ça, mais incroyable.
On n'applique pas un principe de précaution, juste ça. Donc ça a été fait d'ailleurs pour les professionnels, hein, puisqu'ils ont eu interdiction de vendre leurs produits, les maraîchers notamment. Les vaches étaient confinées, elles ont été confinées plus longtemps que les gens au final, les vaches, quoi. J'ai l'impression que beaucoup de gens, dont nous faisons partie, on aimerait bien reprendre une vie normale, on aimerait bien avoir une vie comme si c'était rien passé. Malheureusement, ben nous, Pauline et moi, on a un peu du mal à penser que tout va bien. Là, on sait que notre lieu d'habitation est pollué, en fait. Donc ça n'est plus, c'est plus un risque, c'est une certitude. Parce qu'il y a des bouts d'amiante devant la maison, ils n'ont pas été ramassés. Alors, ils sont dans les gouttières, ils sont sur les toits, ils sont dans la rue, dans les caniveaux. Ils sont partout.
On nous dit, oui, dormez tranquille, mais ça ne se voit pas. Ou ça se voit, mais très peu. Certains spécialistes parlent d'une marée noire. Évidemment, si on avait les pieds dans le mazout, collés, englués, qu'on voyait nos animaux de compagnie patauger dans le pétrole, comme on a vu avec la Moucalis ou l'Erika ou d'autres, des oiseaux englués, ça aurait... plus d'impact, et je pense que c'est plus facile de faire table rase sur quelque chose quand ça ne se voit pas. Moi, ce qui me pose encore question, c'est qu'on est quand même 4 semaines après, on sait toujours pas d'où c'est parti, ni comment. Pourquoi ça a explosé ? Comment ça se fait que ça a explosé ? Et d'où ça vient ?
comment c'est possible de laisser des usines aussi dangereuses si proches de ou carrément dans les agglomérations. Alors on nous dit qu'il faut être exposé à une grande exposition longue et intense à l'amiante pour déclarer un cancer. Est-ce qu'on est exposé là en ce moment? Est-ce que ça compte? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on va mourir d'un cancer dans 5 ans ou dans 10 ans? On ne sait pas. Mais on vit avec ça quand même. Je pense que pour moi, ça va être très compliqué d'élever mon fils dans un endroit que je sais polluer en fait. Et peut-être qu'on va partir, je ne sais pas.
Enseignante en collège à Grand-Quevilly. Donc le jeudi, le collège a recueilli les gamins et puis ensuite les a libérés. Et c'est seulement le mercredi, quand les odeurs ont été très fortes, qu'en fait, à 10h à la récréation, entre collègues, on a décidé de faire un droit de retrait. Parce que les gamins tombaient un peu comme des mouches, quoi, allaient à l'infirmerie, avaient mal à la tête, et puis nous, on ne se sentait pas très bien. On nous dit, voilà, il n'y a pas de danger grave et imminent, donc il faut continuer à travailler. L'inspection académique a refusé notre droit de retrait, on va dire ça comme ça. Et donc, ils ont dépêché quelqu'un en urgence pour parler avec nous. Ils ont surtout refusé que les enfants soient renvoyés dans leur famille. Ce qui nous a amené à garder les gamins dans la cour pendant 2 heures, ce qui a été assez catastrophique. C'est un vrai souci qui nous a pas mal torturés. Hein. C'est assez hallucinant quand on sait qu'en plus, nous, on fait des plans de mise en sécurité tous les ans, parce que nous, on est juste à côté du site Borealis. C'est une usine de pharmaceutique chimique, quoi. La petite sœur d'AZF, en fait, de Toulouse, c'est la même. On met en situation les enfants, on se confine, on calfeutre les portes, on va dans une zone spécifique et tout. Et surtout, il y a une sirène qu'ils connaissent, les élèves, avec un son très long, qui n'est pas le même que la sirène d'incendie. Et bien là, évidemment, ils n'ont pas entendu la sirène chez eux. Ils se disent, mais si on ne l'entend pas, c'est qu'il n'y a pas de risque. Pourquoi on ne l'a pas entendu chez nous? Enfin voilà, toutes ces questions-là, elles étaient là. Et nous, on nous demande, par voie hiérarchique, la seule chose qu'on nous a demandé, c'est de rassurer les enfants. Comment on voulait qu'on rassure les enfants si nous, on nous dit même pas dans quelle situation on est?
Aujourd'hui, on nous demande au préfet, on nous demande au gouvernement, donnez-nous la vérité, rendez-nous notre vérité.
Ben moi, j'étais institutrice ici. Voilà, c'est une ville ouvrière que j'aime bien. Et j'aime bien les gens de Petit-Quevilly. Moi, j'ai que des bons souvenirs dans mon boulot ici, c'est vrai. Hein. Là, on fait un petit rassemblement pour les gens de Petit-Quevilly, pour informer, faire signer une pétition, parce que personne n'a confiance dans tout ce qui est raconté et par Lubrizol, Normandie Logistique, et par le gouvernement, Premier ministre y compris, etc. Il n'y a pas de confiance, on ne peut pas, on ne sait rien. Quoi. Cette usine, c'est une usine qui est très 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 ancienne, hein, de 1954, qui était là bien avant que la ville de Petit-Quevilly soit construite telle qu'elle est maintenant. Une usine qui pète comme ça, quoi, c'est... Quand on est depuis longtemps sur la ville, on sait très bien que ça peut arriver. C'est pas la première fois que ça arrive. En 2013, il y avait déjà eu une fuite de gaz de mercaptan. C'est un truc qu'on met pour qu'on sente l'odeur du gaz. Parce que sinon, ça sent rien, un gaz, vous voyez. Donc on met du mercaptan. Et c'est un gaz, vraiment, c'est une odeur infecte, nauséabonde, pourrie. Enfin, on était vraiment tous très malades. Il y a eu une vraie fuite. Et donc, après, le tribunal de Rouen les a condamnés à 4000 euros. Ce qui n'est rien pour une société comme Lubrizol, qui est quand même, appartient à Warren Buffett, la troisième ou quatrième, je ne sais plus, fortune mondiale, quoi. Donc, c'était que dalle. Et ils n'ont pas vraiment fait des travaux après, quoi. Enfin, il y en a eu un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, c'est une usine à risque. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, il faut la fermer, cette usine. Et moi, je suis pas d'accord. Les salariés, il n'est pas question de leur dire c'est eux les méchants. Hein. On dit pas ça. Moi, je les défendrais. C'est pas marrant. Hein, pour eux. Là, il y en a qui sont insultés, par exemple. Hein, vous voyez, ça, c'est autre chose. Mais comment on fait pour que ça fonctionne, quoi? Et ça, c'est notre regard à nous, les salariés, la population, les syndicats, les associations, enfin, voilà, tous ceux qui veulent un environnement autre que celui que ce foutu capitalisme nous fait subir.
C'est partout dans l'appart, c'est horrible.
Pardon, mesdames, vous parlez de qui?
De mon chat, qui a refusé de sortir pendant 3 jours au moment de l'accident. Ouais, pendant 3 jours, elle a refusé de sortir, elle s'est cachée sous le lit, ça m'a fait flipper, quoi. Moi, j'étais déjà très angoissée, mais elle, pour le coup, elle savait pas ce qui se passait, et je me suis dit, c'est un signe. plutôt néfaste. Et elle a été malade. Grosse diarrhée, et ça sentait la même chose que dehors. Les hydrocarbures, ça sent exactement la même chose. Et pour le coup, c'est juste d'avoir respiré, je pense, puisqu'elle mange que des croquettes, elle n'est pas sortie.
Oui, j'ai un chat, mais il n'a pas été concerné. Mais nous, oui, nous aussi. Sur la région, on est tous concernés. Hein.
Ça fait combien de temps que vous habitez dans la région ?
Depuis toujours. Depuis toujours. Et j'aime ma ville, en plus. Hein. J'étais dégoûtée qu'il se produise ça, quoi. Parce que là, pour le coup, ça quand même... qui a envie de venir passer un petit séjour à Rouen en ce moment, quoi ?
Je suis le docteur Prouet, je suis médecin à Canteleu. Donc depuis l'incendie du Brizol, je vois évidemment plus de gens qui sont inquiets, de gens qui ont beaucoup toussé, qui ont la gorge qui pique. Je vois aussi des patients qui étaient asthmatiques et qui se remettent à siffler. Je vois aussi des nouveaux patients qui commencent à siffler alors qu'ils n'avaient jamais de problème. Mais d'une certaine manière, ça c'est la partie immédiate. Le risque, il est plutôt après. Le nuage, il faisait 6 km sur 22 km. Il a fait Rouen. Il est allé après au nord-est. Il est allé jusqu'au Hauts-de-France. Il est allé jusqu'en Belgique. Et il est même allé aux Pays-Bas. Ce nuage toxique de plus de 9000 tonnes de produits divers qui ont été dispersés dans l'atmosphère et qui sont dans notre alimentation, dans les bronches, peuvent avoir des effets sur la santé. Notamment les dioxines, les furanes, où l'amiante peut avoir des propriétés cancérigènes. Les experts un peu indépendants, ceux de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, par exemple, ils ont dit que sur certaines endives, ils ont retrouvé deux fois plus de plomb que sur ce qu'ils trouvaient d'habitude. Ou alors, on nous dit qu'il n'y a pas d'amiante. Mais en fait, il ne faut pas comprendre qu'il n'y a pas d'amiante. Il faut comprendre qu'on est en dessous des seuils et les seuils réglementaires d'amiante. Ils datent des années 70, où il y avait beaucoup de problèmes d'amiante. Donc on peut dire, oui, il y a de l'amiante. Oui, il y a du plomb, oui, il y a des dioxines. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera malade. Ça veut dire qu'il faudra faire des plans de surveillance et surtout aussi réduire la pollution chronique, réduire la pollution habituelle. On en a pris plein la figure. En Seine-Maritime, la pollution habituelle, tenez-vous bien, c'est 2500 morts supplémentaires chaque année. C'est 15 mois d'espérance de vie en moins dans une ville comme Rouen, où il y a beaucoup d'usines Seveso. Et là, il faut vraiment qu'il y ait eu un suivi de toute la population. Combien il y a d'insuffisance respiratoire ? Combien il y a de nouveaux cancers ? Quel type de nouveaux cancers ? Et que ça soit organisé au niveau de tout un bassin de population. Et ça serait le deuxième scandale s'il n'y en avait pas. Très franchement, aujourd'hui, le gouvernement, il parle de conditionnel. On pourrait mettre un suivi sur les résultats en mars. Très clairement, si ce n'est pas mis, ça va être vu par tout le monde, qu'ont-ils à cacher. On avait le CHU qui stoppait sa ventilation, qui fabriquait son air propre pour ses blocs opératoires, ses services d'urgence, qui rappelait ses médecins, qui déclenchait un plan blanc. Un plan blanc, c'est-à-dire on arrête certaines opérations programmées pour laisser de la place pour l'urgence. Et on avait un préfet qui ne déclenchait pas les sirènes et qui dit « circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de problème, c'est les fumées habituelles ». Deux jours après, on nous dit « l'air est devenu normal, habituel ». Bon, c'est ça aussi la base de la défiance. On a l'impression qu'ils ne nous ont pas du tout défendus.
Mon métier, 3,5 jours par semaine, c'est inspecteur du travail. Et je parle en tant que syndicaliste. Et on a écrit plusieurs fois au préfet, ici à Rouen, pour leur faire état de nos constats dans l'industrie et dans les entreprises Seveso notamment. C'est qu'il y a des pans entiers de la réglementation qui ne sont pas respectés. À commencer par le code du travail et le code de l'environnement. On sait que les industriels ne respectent pas la réglementation, qui mettent en jeu la vie des travailleurs et des populations. Mais comme il y a toujours des enjeux économiques, on ne prend pas les mesures qui s'imposent pour forcer les industriels à respecter la réglementation.
Qu'est-ce qui s'est passé concrètement à Lubrizol ?
Concrètement, alors le détail, on le saura dans l'enquête judiciaire. Là, pour l'instant, on ne sait pas trop où le feu a pris. Mais en tout état de cause, que le feu soit parti de Lubrizol, à l'extérieur du hangar A5 ou pas, voire de son voisin Normandie Logistique, voire d'ailleurs, ça n'a pas tellement d'importance. Les règles qui doivent s'appliquer dans l'industrie doivent faire que, quand il y a un début d'incendie, l'incendie ne doit pas sortir des frontières de l'entreprise. Et si l'incendie a lieu à l'extérieur, l'incendie ne doit pas rentrer dans l'entreprise. Bon.
Et là ?
Et bien là, le feu, on ne sait pas d'où il est parti. On a des pompiers à Lubrizol, hein, mais qui travaillent en production.
Bon, ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire qu'ils travaillent. Hein, et quand il y a l'alerte, ben, ils arrêtent leur poste de production. Donc il faut qu'ils arrêtent déjà et mettent en sécurité leurs installations, qu'ils mettent leur tenue de pompier, qu'ils aillent à la petite caserne de Lubrizol avec le matériel. Dans les autres, dans la plupart des autres usines Seveso 2, on a des casernes, des gens qui sont prêts à intervenir, hein, voilà, qui font des exercices régulièrement. Donc déjà là, il y a un choix qui a été fait, vraiment un défaut de formation et de connaissance des salariés de la sous-traitance. Il y a moins de 8% des sous-traitants de l'industrie qui savent manier un extincteur, alors que le risque de feu dans l'industrie, c'est un des risques les plus courants. Je vous donne un exemple. On a eu à Cepol, à Dieppe, dans le département. Cepol, c'est notamment le sueur, Puget, voilà, c'est un certain nombre d'huiles. Là, c'est une panne sur un extincteur. Donc, il y a eu une partie mécanique qui a cassé. Et là, on va envoyer des travailleurs de la sous-traitance parce qu'il faut que ça reparte vite, sans évaluation des risques, alors qu'on sait que l'hexane, il y a des risques d'explosion. Plus on pompe, plus on sait qu'il y a un risque d'explosion et on ne prend pas les mesures. Et on a la preuve dans le dossier pénal que les explosimètres, c'est-à-dire des appareils qui vous disent bip, 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 attention, ça va péter, la direction de Cepol a laissé les sous-traitants continuer alors que ça sonnait partout. Bon, et à un moment donné, ce qui devait arriver arriva. Hein, y a une explosion, il y a deux morts. Et les morts au travail, c'est facilement un mort par jour. Les morts différées du travail, que ce soit sur des expositions à l'amiante ou des cancérogènes, hein, c'est plusieurs morts par jour. Et ça, effectivement, on en parle peu. Moi, ça fait 15 ou 20 ans que je bagarre sur les questions de maladies professionnelles, de cancer, de l'amiante et des produits chimiques. Et c'est une question qui n'arrive pas à percer. Allez interroger des salariés dans les usines. Les salariés, ils sont conscients des risques quand ils mettent leurs doigts dans la machine qui se coupe les doigts. Ils ont conscience d'un risque de chute de hauteur, par exemple. Mais conscience qu'ils bouffent des cancérogènes à longueur de temps, ils ne le savent même pas, les salariés.
Comment
ça se passe à l'intérieur de Lubrizol? Il faut poser la question aux salariés de Lubrizol, qu'aujourd'hui, ils ont une pression énorme, que ce soit les salariés et les sous-traitants. Nous, on discute avec des sous-traitants de Lubrizol. C'est compliqué, ils craignent pour leur emploi. Il y a des emplois en jeu, il y a des familles à nourrir en fin d'année. Mais si on va creuser de ce côté-là, vous allez voir que oui, des inquiétudes, on a raison d'en avoir.
C'était Place de la République, un nouvel épisode à Rouen avec les suites de l'incendie Lubrizol. Une émission signée Valérie Borst, réalisée par Milena Hellig. Merci au collectif Lubrizol, à Jean-Noël Guyader, à Gérard Lecor, à Pauline et Christophe, à Valérie et Isabelle, à Marie-Josée, Leïla, Franck Prouet, Flora Carpentier et Véronique Créberotte. C'est Aurélie Marseille, attachée de production des Pieds sur Terre.